Pluriel gay.
Bonsoir à tous et à toutes. C'est la deuxième émission que nous allons consacrer aux années guépiers, le célèbre mensuel, puis hebdomadaire gay, les années 80 et 90. Une évocation par Thomas Dupuis, avec lequel nous avions enregistré des chroniques. Et il s'agit là de compilations des best-of, donc de ces chroniques qui ont été diffusées au cours de nos émissions ces dernières années. Thomas Dupuis, donc, qui est l'auteur du livre « Les années guépiers », paru aux éditions des Ailes sur un tracteur. Donc, on est à l'année 1983.
Pour moi, l'année 1983, c'est avant tout la dernière étape, on dira, de l'élection de Mitterrand. On arrive à la fin d'une époque, avec la mise en place de certaines choses, mais en même temps, un commencement d'essoufflement de la vie associative. Alors, on a quand même en 1983 la naissance de notamment deux associations qui sont toujours en place, qui sont Homosexualité et Socialisme, HES, donc, qui a été fondée en 1983, ainsi que des gays retraités, alors qui en 1983 naissent sous la forme seulement d'un groupe au sein du QAR, pour les gens du troisième âge, hommes et femmes, et qui se constituera un peu plus tard en association, une association qui théoriquement est mixte, même s'il y a surtout des hommes, voilà, qui vit toujours. Le QAR, hein, je le rappelle, c'était la grande association fédération nationale qui regroupait tout le mouvement, on ne disait pas LGBT à l'époque, c'était avant tout gay et un peu lesbien, qui avait été créé en 79, donc c'était le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, mais c'était vraiment la grande fédération associative gay en France. On notera au niveau de la naissance des associations, une association qui a perduré jusqu'aux années 90, qui est le GAGE, le Groupement Acrien des Grandes Écoles. C'est la première fois qu'en fait il y a une association étudiante, on dira, qui se constitue sur des thématiques homosexuelles. Mais on est donc dans le post-1981, où en fait les militants s'essoufflent un peu dans le sens où en 82, il y a eu la sortie des articles sur l'homosexualité du code pénal. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'avancées, etc. Et du coup, la mobilisation, on va dire, militante baisse petit à petit.
En fait, l'année 1983, c'est donc une année charnière aussi dans le domaine politique par rapport à la présidence de François Mitterrand.
Au niveau politique global, hein, c'est un peu la fin des illusions de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc ça va être petit à petit le tournant de la rigueur, une nouvelle forme de réalisme qui fait que du coup le contrat passé entre, on va dire, la gauche socialiste et les Français n'est plus vu de la même façon. Donc je pense qu'effectivement au niveau associatif ça se traduit aussi, mais je pense que surtout au niveau de la cause homosexuelle, le problème de la militance vient du fait que on a enfin acquis des droits, donc maintenant on va en profiter et on se sent moins mobilisé pour conquérir des droits, parce que à l'époque les revendications sur le mariage ou l'adoption telle qu'on les a connues ces dernières années ne sont pas du tout dans les intentions de la communauté. Donc on arrive enfin à bien vivre sans être fiché, sans être ceci, sans être cela. Donc on est après dans une phase où on veut en profiter. Ça correspond aussi à Paris avec le début vraiment de l'explosion du Marais. Alors, ce qui a commencé véritablement à la fin des années 70, mais qui, les établissements se multiplient. La vie gay passe de plus en plus par les commerces plutôt que par le monde militant, où on a l'impression que les droits sont acquis.
Alors, on a évoqué dans les chroniques précédentes l'apparition des premiers articles du sida dans le guépier. Le sida sera aussi un point de rupture avec le gouvernement socialiste.
Je ne voudrais pas prendre la défense d'un gouvernement socialiste plutôt qu'un autre. Je pense quand même que quelques gouvernements qui étaient aux commandes à ce moment-là auraient été aussi complètement démunis. Ou... Il faut voir qu'à l'époque, en France par exemple, c'était juste une trentaine ou une quarantaine de cas de morts par an. C'était encore relativement faible. Et c'était en plus une épidémie dont on ne connaissait rien. Le virus n'était pas encore détecté. On n'avait pas la possibilité de faire des dépistages. On était totalement dans le flou. Et pour, au final, relativement peu de cas. On a eu ça dans tous les pays. Alors, chez nous, en fait, je pense que ça... L'épidémie, la mobilisation s'est d'abord faite aux États-Unis plutôt que chez nous parce qu'ils avaient beaucoup plus de cas. Et chez nous, ça a été ralenti du fait que d'abord, il a fallu que les cas arrivent. Et puis aussi du fait de cette... le fait d'avoir reçu tous ses droits après l'élection de Mitterrand en 81 fait que la communauté n'a pas eu envie de voir qu'il y avait un souci qui se propageait à l'horizon. Alors, en 83, a priori, le sida reste relativement peu présent dans la sphère, en tout cas au travers du guépier, on en parle relativement peu. On a un premier mort célèbre qui est Klaus Nomi, le chanteur Klaus Nomi. C'est la première victime un peu connue qu'on a dans l'actualité. Mais le sida est très peu présent. On verra, pour moi, le retournement se fera vraiment en 84, où là, il y aura... de vrais débats, donc on en parlera une prochaine fois, de vrais débats, et petit à petit, ce sera lent, mais bon, ça arrivera, une prise de conscience déjà du monde associatif. Ce qu'il faut voir, c'est que le monde associatif, déjà en 83, n'était pas du tout mobilisé sur la question du sida. Alors, demander à ce qu'un gouvernement le soit à la place même des acteurs touchés, voilà, je pense que tout gouvernement qui y ait eu aurait été un peu dans la même situation.
Mais je veux dire, dans la continuité, après, dans les années qui ont suivi, on a beaucoup reproché justement à ce gouvernement, peut-être, de ne pas avoir pris la mesure.
Il n'y a pas eu du tout d'anticipation. Il faudra effectivement attendre l'arrivée de Michel Barzac au ministère de la Santé pour avoir un grand plan sida. On en reparlera, donc ça c'est les années 86-87. Avant, il n'y a quasiment aucune mesure de prise.
Donc le sida est peu présent dans le journal Guépier en 1983 encore.
En 83.
Sauf à travers l'annonce du décès de Klaus Nomi.
Oui, après il y a quelques articles qui font état des cas qui se multiplient, etc. Mais ce n'est pas encore une question, je n'ai pas l'impression.
Pour Fréquence Gay, la radio de la communauté gay à Paris, c'est aussi une année charnière, je crois.
C'est en 83 que la Haute Autorité, présidée par Michel Cotta, est chargée de distribuer les fréquences. Avant, donc, les radios commençaient à émettre, mais dans un statut un peu bâtard. Il y a eu une commission qui s'est mise en place, la commission Holo, je crois. Et en tout cas, à la fin de l'étude, les préconisations font que si Fréquence Gay doit avoir une fréquence officielle, qu'elle soit partagée avec d'autres radios de type communautaire, un peu des politiques marginales, etc., mais qu'il n'y ait pas une fréquence dévolue attribuée totalement à Fréquence Gay. Dès que cette position est connue, Fréquence Gay active ses réseaux et il y a très vite une manifestation qui se met en place, qui voit défiler 6000 personnes dans les rues de Paris en janvier. Et donc, au final, la Haute Autorité de Michel Cotta et le ministère, c'était le ministère des Télécommunications, je crois, enfin celui de Filiou, est obligé d'attribuer une fréquence à la radio homosexuelle. Et la fréquence qui va lui être attribuée, le 97.2, elle prend la place, en fait, de Carbone 14, la radio mythique, qui, elle, par contre, n'a pas passé le cap de l'attribution des fréquences.
Donc 1983 connaît aussi des bouleversements au sein même du magazine, du journal de Guépier.
Alors Guépier, effectivement, va vivre une de ces crises. Donc le Guépier, on rappelle, en fin d'année 82, à partir du mois de décembre, passe à un rythme mensuel. La maquette change, on sort petit à petit du journal militant politique, or qui était au départ édité d'ailleurs sous format papier, on passe plus à un format magazine qui mélange, et pour moi ce sera vraiment la particularité de Guépier, les sujets politiques, les dossiers de fond, mais une partie plus glamour, on va dire, plus magazine, avec petit à petit des photos de mecs à poil au milieu, les petites annonces qui prennent de plus en plus d'ampleur, et des sujets de vie quotidienne et de consommation. Donc ça, c'était la fin de l'année 82, et du coup, en 83, au milieu de l'année 83, Jean Lebitou, qui était quand même le fondateur, et on peut dire le créateur de l'idée du Guépier, claque la porte du journal. Lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui a lieu le 9 juillet, il met fin à ses fonctions, il quitte le journal, il y en a quelques-uns qui le suivent. Du coup, il part avec beaucoup de rancœur. Et quelques semaines plus tard, à la rentrée, il répondra d'ailleurs aux questions du journal concurrent qui est Samouraï. pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que Samouraï a été créé par Jackie Fougeret après que Jackie Fougeret était quand même poussé dehors par Jean Lebitou. Mais du coup, Jean Lebitou, quand il part du guépier, va un peu cracher son fiel dans les colonnes de Samouraï en dénonçant la dérive quasiment pornographique, en tout cas très mercantiliste, prise par le journal. Cette dérive-là, c'est les entretiens que j'ai eus avec des acteurs de l'époque, épousait quand même les besoins des lecteurs consommateurs. Et ça, Gérard Vapreau, qui était le gérant, l'a très vite compris qu'il fallait changer de modèle pour passer d'un journal militant à un journal plus pour la communauté. Et ça épouse d'ailleurs l'histoire. Sauf que ça, Jean Lebitou l'a pas supporté. Il voulait toujours un journal militant. Ça vient aussi de son passé. Il était dans les GLH, etc. C'était un acteur militant. Il n'a pas supporté de voir que le journal prenait une nouvelle connotation, mais qui était nécessaire à sa survie.
Alors, la vie culturelle en 1983, telle qu'elle est évoquée dans Le Guépier, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant, par exemple ?
Je mettrai en avant surtout le grand événement, c'est la sortie de L'Homme blessé de Chéreau et Hervé Guibert, qui est présenté à Cannes, alors qui aura un César d'ailleurs l'année suivante, et qui provoque un grand malaise à Cannes du fait du sujet, des images traitées, donc ça va avoir un grand retentissement. Après, à un niveau plus au-delà de la culture, de la vie gay, je soulignerai aussi deux choses. C'est les mots à la bouche qui déménagent et qui s'installent rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Avant ça, ils avaient été créés 3 ans plus tôt, la librairie. Donc, c'est une librairie parisienne. C'est la grande librairie LGBT parisienne. Maintenant, il n'en reste plus que deux. Il y a aussi Violette & Co, mais là, c'est plus lesbien. Et donc, les mots à la bouche avaient été créés dans le 18e arrondissement et déménagent rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc qui est en plein marais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est le symbole un peu de l'éclosion du marais avec de plus en plus d'établissements de tous ordres qui s'installent. Et au niveau de la vie gay aussi, c'est intéressant de noter que s'ouvre rue Saint-Honoré cette fois le club Le Haute Tension, qui sera un des deux grands clubs fondés par David Girard, qui est dans l'explosion de son business dans ces années-là. Donc il va monter véritablement un empire de la nuit parisienne, on dira. Et voilà, en 83, à la fin de l'année, s'ouvre Le Haute Tension, qui sera le club qui va durer quelques années jusqu'à l'ouverture du Megatown à la fin des années 80.
Listen to me, baby, you got to understand. You're old enough to learn the makings of a man. Listen to me, baby, it's time to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Baby, that's won't you stay? But till then, when I see lips begging to be kissed, I can't stop. Stop! I can't stop myself. No! Nature's taken over my one-track mind. Believe it or not, all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I'll make up for all lost time. If she's put together fine, then she's on my mind. I can't stop, stop. I can't stop myself. In your mind, love forever.
Pluriel Gay.
Nous sommes de retour avec Thomas Dupuis, donc auteur du livre Les années guépiers, paru aux éditions des Ailes sur un tracteur. Et nous sommes de retour pour la chronique de l'année 1984. Une année 1984 un peu plate sur le plan médiatique.
Oui, bah disons que dans la vie du guépier, le guépier s'est installé en tant que formule hebdomadaire, a commencé à apprendre à vivre sans Jean Le Bitou. Donc c'est mis en place, alors c'est Franck Arnal plus qui va diriger le journal, avec toujours Gérard Vapro aux commandes financières et administratives, et vont prendre petit à petit de l'importance au niveau éditorial, des gens comme Hugo Marsan, voilà, des gens qui sont là depuis un moment. Mais après, sur le guépier en tant que tel, il y a peu d'événements. L'ambiance sera un peu plus chaude chez Fréquence Gay, par contre, qui va avoir un conflit interne où une partie du CA va être démissionnée et où du coup une partie de l'équipe va faire un putsch et s'enfermer dans l'ancien appartement d'où était diffusée la radio à ses tout débuts avant l'attribution de la fréquence. Donc du coup l'antenne va être coupée. Puis, petit à petit, ça reviendra dans l'ordre des choses. Le conflit va s'envenimer entre la direction et les animateurs, même devant la justice. Et il faudra attendre véritablement la fin de l'année pour que Fréquence Gay décide de remettre tout à plat. Donc, va s'arrêter pendant un mois d'émettre, histoire de mettre en place une nouvelle équipe, de mettre en place de nouvelles émissions et de repartir... Voilà, de zéro, on va dire. Mais ce sera souvent le cas dans la vie de la radio. Il y aura souvent des heures, des arrêts de l'antenne pendant quelques semaines, puis de nouveaux programmes. Voilà, la radio va quand même se chercher pendant longtemps.
L'année 1984, qu'est-ce qui change au niveau du rapport entre la politique et les associations LGBT?
C'est un peu la fin de l'état de grâce. C'est-à-dire que quand Defferre est arrivé au ministère de l'Intérieur, en 81, il y a eu vraiment des avancées. On a arrêté le fichage, il n'y avait plus les délits pour les homosexuels. Et en 84, il y a une nouvelle vague de descente dans les bars qui se passe assez mal. Si bien que la communauté homo qui avait encore ses entrées auprès du gouvernement via le QR. Le QR, hein, je le rappelle, c'était la grande association fédération nationale qui regroupait tout le mouvement, on disait pas LGBT à l'époque, c'était avant tout gay, un peu lesbien, qui avait été créé en 79. Donc c'était le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, mais c'était vraiment la grande fédération associative gay en France. Le QR va petit à petit tomber en sommeil, mais il est encore là. Et ils font prendre conscience au gouvernement à la place Beauvau qu'il y a un souci, que les policiers recommencent à faire pas des rafles, mais des descentes assez fréquentes. Et du coup, de faire qu'il y avait toujours la préoccupation de normaliser les relations entre la police et la communauté homosexuelle. De faire qui, je rappelle, avait quand même hébergé les universités d'été homosexuelles à Marseille avant même d'être ministre. Donc de faire décide de créer un poste au ministère de l'Intérieur d'une Madame Homo, on va dire, chargée d'apaiser et de déminer tous les conflits. Elle était chargée des relations avec la communauté gay. Donc ce sera une certaine Aimée Dubos qui va être nommée conseillère technique auprès de Gaston Defferre. Alors, en 84, on va avoir un changement de gouvernement. C'est l'année où arrive Laurent Fabius. Donc c'est une deuxième phase du premier septennat de François Mitterrand. Defferre n'est pas reconduit place Beauvau, il est remplacé par Jox. Alors Jox qui, on le verra dans les années suivantes, a une attitude beaucoup plus raide par rapport à la communauté homosexuelle. Voilà, c'était pas toujours très facile. Mais il n'empêche que Jox, quand il arrive, nomme quand même une nouvelle Madame Homo, parce qu'Aimée Dubos est partie en même temps que Defferre, et ce sera Marie-Pierre de la Gontrie, qui sera la Madame Homo au sein du ministère de Pierre Jox. Et au niveau politique, on notera que c'est une des premières interventions de Jean-Marie Le Pen sur l'homosexualité. Donc Jean-Marie Le Pen passe à l'heure de vérité en février 1984. L'heure de vérité, c'était à l'époque, c'était la grande émission politique qui passait sur Antenne 2. Donc invité à l'heure de vérité, il va s'insurger un peu, il va dire que certes l'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas non plus être une valeur privilégiée. Car de toute évidence, et là il précise quand même, elle constitue une anomalie biologique et sociale. Donc l'année 84, c'est les années où Jean-Marie Le Pen va avoir de plus en plus d'audience, va être de plus en plus représenté dans les médias, et on va le voir petit à petit, effectivement, il s'appuiera entre autres aussi sur les questions homosexuelles, et puis ensuite sur le sida, pour stigmatiser les populations, pour du coup prendre la défense des bons Français hétérosexuels, blancs et en bonne santé, qu'il faut protéger contre tous les ennemis, qu'ils soient internes ou externes.
L'année 1984, c'est aussi l'année où la question du sida va émerger de façon prédominante.
Effectivement, les sujets vont se multiplier. Si on repose les choses d'abord, c'est toujours quand même les États-Unis qui sont les plus touchés. Les chiffres quand même commencent à être sérieusement dramatiques. On compte aux États-Unis 6600 cas de personnes malades, 3000 morts déjà au compteur. Et on estime, mais les chiffres sont flous, à l'époque le dépistage, voilà, ça n'existe pas vraiment. Donc on estime quand même que 300 000 personnes portent le virus. Enfin, on ne sait pas si c'est un virus, mais sont infectées. En Europe, on en est à un peu plus de 500 cas. En France, on en est juste en juillet 84, on en est à 184 de sida. Donc ça reste relativement peu par rapport à d'autres maladies, mais ça progresse tout le temps. Et ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 180 cas, 90% sont des homosexuels, 90% sont des gens qui habitent en région parisienne. Voilà. Donc la question quand même, autant on a joué l'autruche, on n'a pas voulu en parler, autant la question va occuper de plus en plus les colonnes du journal. Et c'est là, alors, si on lit ou relit Le Rose et le Noir de Frédéric Martel, c'est ce qui va lui être reproché, c'est d'avoir lui-même reproché à la communauté et aux guépiers d'avoir totalement minimisé les dangers encourus. C'est à prendre avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que effectivement, quand on lit aujourd'hui Le Guépier, il y a des articles, il y a des éditos qui paraissent totalement aberrants. On a des éditos de Franck Arnal qui disent « Attention, on nous reproche de ne pas assez en parler, mais on en meurt encore relativement peu. On a beaucoup plus de risques de mourir en fumant ou en traversant la route qu'en baisant. » Donc, en gros, jusqu'en 84, on a encore beaucoup d'éditos et parfois même de l'association des médecins gays de l'époque qui dit « Non, allez-y, on n'en sait pas plus que vous, mais allez-y, continuez à baiser, il n'y a pas tant de risques que ça. » Au fur et à mesure quand même, chaque fois qu'il y a ce genre d'édito, alors il n'y en avait pas non plus toutes les semaines, mais il y a régulièrement après des réponses de lecteurs qui commencent à s'inquiéter, qui commencent quand même à dire « Attention, il faudrait quand même regarder les choses en face et il ne faudrait peut-être pas autant minimiser. » Il faut voir qu'en face de ça, même la communauté scientifique n'était pas non plus très consciente de ce que ça allait devenir. En 84 encore, on a le docteur Rosenbaum qui dit, alors je cite, « Le sida ne s'attrape pas facilement. Vous pouvez avoir des rapports avec une personne atteinte et passer au travers de la maladie. » Donc, il y a quand même des discours qui visent, sinon à rassurer, du moins à minimiser et à... Voilà, on n'est pas encore très au clair. Voilà, on ne sait pas trop comment se positionner. On n'assume pas non plus totalement que le sida soit une maladie homosexuelle. 84, c'est l'année de la mort de Foucault aussi. Alors, la mort de Foucault, officiellement, il n'est pas du tout mort du sida. Tout le monde le savait. Il faudra attendre que Guibert le révèle à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de façon détournée pour que ce soit dit officiellement au grand public. Donc Foucault, hein, je rappelle, c'est Michel Foucault qui était le philosophe, le grand philosophe sur la question sexuelle de l'époque, qui n'était pas une figure homosexuelle parce qu'il n'a jamais milité véritablement pour la cause. Il n'était pas out à ce niveau-là. Et je le disais tout à l'heure, mais effectivement, Guibert le outera à la fois sur le sida, sur ses pratiques sadomasochistes, etc. Donc donnera une toute autre vision du personnage, peut-être plus humaine d'ailleurs, mais c'était une référence de l'époque. Mais 84 voit donc la mort de Foucault, et dans les mois, donc Foucault meurt l'été, c'est en octobre, je crois, que Daniel Defer, son compagnon, fonde ce qui va devenir l'association AIDE, avec les moyens du bord au départ. En 84, donc on a quand même 3 mois de AIDE sur l'année 84, Guépier n'en parle pas une seule fois. Guépier attendra 85 avant de parler la première fois de AIDE. Alors ça, je ne l'ai pas lu dans Guépier, bien sûr, je l'ai lu dans Le Rose et le Noir. Defer et les autres de AIDE étaient venus voir, avaient convié Franck Arnal et d'autres du Guépier pour commencer à dire qu'il faudrait parler du sida, etc. Ça avait été une fin de non-recevoir à l'époque. Pour autant, à la fin de l'année 84, on commence à avoir, par exemple, l'association des médecins gays, qui finalement revoit un peu son discours et commence à dire que oui, le sida est bien une maladie qui frappe avant tout les homosexuels et qu'il faudrait peut-être, malgré ce que le docteur Lejeune avait dit avant, donc le docteur Lejeune, c'était le président de l'association des médecins gays, et là, fin 84, l'AMG commence à dire oui, il faudrait peut-être finalement limiter un peu le nombre de partenaires sexuels, il faudrait peut-être faire gaffe. Voilà, donc ça va aller petit à petit, mais voilà, pour moi, l'année 84, c'est vraiment un peu une année schizophrénique pour les gays, où on va passer de la politique de l'autruche, où on va dire le discours officiel, non, allez-y, continuez, il n'y a pas de risque, à, bon, mais finalement, on va peut-être faire gaffe. Voilà, et ça va tout changer. Les années suivantes, là, il faudra regarder la vie en face.
Et le journal Guépier, finalement, a oscillé entre ces deux tendances, la politique de l'autruche et puis...
Le journal Guépier a véritablement été dans la politique de l'autruche. Donc, c'est ce que leur reproche... Enfin, ça paraît comme ça, Martel. Pour autant, là aussi, c'est ce que je disais quand on faisait l'émission sur 1983 sur les politiques. Il faut voir qu'à l'époque, personne ne savait rien sur le sida. C'est d'ailleurs en 84 qu'on va découvrir le virus du sida et que va d'ailleurs commencer la guerre entre le professeur Gallo aux États-Unis et le professeur Montagnier en France à l'Institut Pasteur pour savoir qui est le père de la découverte du virus. Les premières découvertes scientifiques arrivent en 84. Avant, on est dans le flou total. On voit qu'il y a un problème. On n'anticipe pas qu'il va exploser comme il est en train de commencer à exploser. Mais on ne sait rien du tout. On ne sait même pas si c'est un virus, on ne sait pas. Quand on se remet dans le contexte de l'époque, personnellement, je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de juger. On peut voir les choses objectivement, mais personne n'était en mesure d'anticiper ce que ça allait devenir. Donc effectivement, les discours sont aberrants, mais c'est à relativiser.
Je sais que comme les autres, tu ne resteras pas. Je sais que toi aussi, tu partiras. Mais quand même, cette fois, j'espère. C'est pourquoi j'ai gardé au fond de mon cœur une lueur d'espoir. En ton honneur, car il y a déjà longtemps que je monte vers le haut des murs du malheur, que je tombe en essayant d'aspirer le bonheur, celui que j'ai laissé trop souvent, celui que j'ai brûlé de mes 20 ans en me disant comme un pauvre imbécile, demain, je serai bien plus heureux demain. Et je donne des noms au soleil, à la lune, en espérant que demain, plaisir dénudé, regards frissonnants reviendront pour m'habiter, pour alléger la lourdeur des jours à traîner. Et je danse sur les mêmes rimes barbares, et je pleure en m'assurant qu'il est déjà trop tard pour le bonheur éternel, trop tard pour le grand pays des merveilles, en me répétant comme un pauvre imbécile, demain je serai bien plus heureux demain. Thank you.
Pluriel Gay.
Nous sommes donc de retour avec Thomas, auteur des Années Guépier parues aux éditions des Ailes sur un tracteur pour l'année 1985. L'année 1985, une année marquée donc par le sida et toute l'évolution sociétale qui autour de la maladie.
Alors effectivement, en tout cas, quand on lit le Guépier, alors là, le sida devient omniprésent. Alors, les chiffres aussi explosent. En Europe, au premier trimestre, on en est à près de 1000 cas. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, c'est la France qui est le pays le plus touché, et donc notamment Paris. On l'a dit déjà en 84, mais là, les homos sont obligés de regarder véritablement le problème en face et commencent à s'organiser. Alors, j'ai dit en 84, Daniel Defer a créé AIDE. Alors, le Guépier commence à en parler en 1985. On va avoir d'autres associations qui vont se fonder autour de cette question-là. À Lyon, on va avoir l'ALS, qui va être considérée comme... C'est une association indépendante, mais qui après... intégrera la fédération AIDE. C'est une association indépendante. On va avoir aussi une association AIDE qui va se constituer à Marseille. On va avoir aussi une autre association qui va se fonder, qui va s'appeler SOS Écoute Gay, où là aussi qui va être très marquée par les questions autour du VIH. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on va avoir donc beaucoup de structures qui vont se mettre en place et un regain de la vie militante petit à petit qui va se déplacer du champ de l'homosexualité au champ de la lutte contre le sida. Et jusqu'aux années 90, en fait, on va connaître un renouveau du monde associatif, mais au travers de la lutte contre le sida. Alors, AIDE n'a jamais voulu se définir comme une association gay, ni même LGBT. C'était avant tout une association de lutte contre le sida, même si son objet était avant tout des gays. Il faudra attendre 89 et l'arrivée d'ACT UP pour qu'on ait véritablement une association gay de lutte contre le sida. Voilà, donc on a tout cet ensemble d'associations qui se mettent en place. On a aussi les gouvernements qui commencent à se préoccuper de la question, alors un peu doucement. Il faudra attendre 85 pour que Fabius annonce que désormais tous les dons de sang seront soumis à dépistage, histoire d'isoler les lots contaminés, on dira. On n'est pas encore dans l'affaire du sang contaminé, mais ça se prépare. Enfin, l'affaire judiciaire commence à se préparer. Le sida, qui était resté quand même une maladie pour les homos, donc relativement confinée, va exploser auprès du grand public avec la mort de Rock Hudson. Rock Hudson va être véritablement la première personnalité mondialement reconnue qui va dire avant sa mort qu'elle est atteinte du sida. Ça c'était quasiment jamais fait. Et alors, il faut voir que Rock Hudson, du coup, il va avoir un double coming out de malade du sida et d'homosexuel. Mais à la rigueur, l'homosexualité de Rock Hudson va être passée au second plan. C'est avant tout sa maladie qui va marquer les esprits. Après la mort de Rock Hudson, on va avoir du coup sa grande amie Elizabeth Taylor qui va s'engager totalement dans la lutte contre le sida, qui va organiser des grands shows avec de grands dîners à l'américaine où du coup les gens vont participer financièrement pour récolter des fonds. La même année, en 85, en France, Céline Renaud qui va créer l'association des artistes contre le sida, qui elle aussi va fortement mobiliser le public médiatique et le grand public tout court à la question du sida. Donc on a des structures comme ça qui se mettent en place. Au niveau de la communauté elle-même, elle va déjà réinvestir le préservatif. Le préservatif donc, qui existait depuis très longtemps, la pratique était totalement abandonnée, quasiment abandonnée. C'est en 85 qu'on commence véritablement à en parler de plus en plus et que le marché d'ailleurs va exploser. Même si on est encore loin des distributeurs de préservatifs, du préservatif à 1 franc, tout ça sont des campagnes qui viendront après. Mais le préservatif arrive dans les modes de consommation, de la même façon qu'on va avoir l'apparition du nouveau concept qui est le concept de sexe à moindre risque, safer sex, ou sexe sans risque, avec des pratiques diverses, notamment dans les clubs, on va avoir petit à petit des clubs de jack-off party, où en fait les mecs, au lieu de baiser, se masturber réciproquement ou ensemble, etc. Donc des pratiques sexuelles totalement différentes. Les gays aussi ont été obligés d'adopter ces mesures-là parce qu'il commençait à y avoir des menaces de fermeture des établissements. ça va se passer à New York d'abord, où à New York, on va fermer les bains Saint-Marc, qui était un immense sauna, ainsi que le Mineshaft, qui était le grand club sadomaso à New York. Et il y a des tentatives un peu partout de fermer les bordels gays. Le guépier va se lancer cette fois de façon dynamique sur ces questions-là. Avant, elle se faisait juste le rapporteur des découvertes ou des questions qui se posaient. Là, par exemple, ils vont commencer à lancer des enquêtes. Ils vont aussi faire des tests en aveugle, entre guillemets, dans des restaurants parisiens. Ils vont à un moment donné essayer, par exemple, d'appeler des restos pour dire est-ce qu'on peut réserver des places. Au fait, il y a un des convives qui est malade du sida, pour voir la réaction des restaurateurs. Et on verra que même, par exemple, le privilège qui était le restaurant qui faisait partie du club Le Palace, va refuser au final de prendre les réservations. Voilà, donc là, en 85, le guépier acquiert véritablement une attitude militante par rapport au sida qu'il n'avait pas du tout avant. Mais le mouvement fait qu'on ne peut pas faire autrement. Je disais aussi, donc le mouvement associatif va renaître via la lutte contre le sida. On a quand même deux nouvelles associations qui naissent en 85, dont une qui existe toujours, qui est le MAG, l'association pour les jeunes gays et lesbiennes, LGBT aujourd'hui, qui existe toujours. Et on va avoir aussi une autre association politique qui va se fonder. On a vu qui est née HES deux ans avant. Là, en 85, on va avoir les Gays pour les Libertés, qui est une autre association de gauche, on va dire, qui est là pour théoriquement porter des messages politiques. Le QR est toujours officiellement présent. Donc le QR, je le rappelle, c'est la grosse fédération gay de l'époque, qui est née en 79, qui a beaucoup lutté en 81, mais qui est en totale perte de vitesse, qui n'est quasiment plus entendue et qui petit à petit va disparaître.
Alors malgré l'explosion, je dirais, de l'épidémie du sida et des craintes liées donc, à l'expansion de la maladie, l'année 1985 voit l'explosion, paradoxalement, de la drague télématique grâce à l'arrivée du Minitel.
Bon, alors, le Minitel, effectivement, est né quelques années plus tôt. Alors, je ne sais plus exactement l'année, mais c'est en 85 que vont commencer à exploser les sites de drague homosexuelle, de rencontres. C'est en 85 aussi que va naître le fameux 3615. Parce qu'avant, en fait, il fallait composer un numéro de téléphone. Mais c'est en 85 que les PTT mettent en place le numéro abrégé 3615, suivi de TF1, de ceci, de cela. Et Guépier va lancer le 3615 GPH. Là aussi, ce sera très important pour l'histoire du journal. À l'époque, les services télématiques étaient déjà obligés d'être adossés à des groupes de presse pour avoir le droit d'avoir un service. Le Guépier a d'abord sous-traité cette partie-là et en 85 va reprendre les choses à son compte. Et ils auront raison parce que c'est en fait le Minitel qui ensuite va être une véritable poule aux œufs d'or. Tous ceux de l'époque se rappellent des factures astronomiques reçues en fin de mois qui créaient parfois des soucis familiaux, on va dire. Mais derrière ça, il y a des entreprises qui vont en vivre très grassement. Et le Guépier va, comme d'autres, en profiter. C'est le Minitel qui ensuite fera vivre le journal jusqu'à la fin. Et c'est le Minitel qui fera que quand le Guépier s'arrêtera en 92, il sera encore assis sur un vrai trésor de guerre. La presse en tant que telle n'a jamais gagné d'argent. Le Guépier a réussi à gagner de l'argent, d'abord par rapport à, pas grâce à des appels à dons, et puis très vite grâce aux petites annonces dans le journal, et à partir de 85 par le Minitel. Ce qui a attiré le monde, hein, c'était avant tout les services de dialogue, de rencontres et plus si affinités, donc c'était quand même le cœur de l'activité. Après, sur le, on dirait aujourd'hui le portail GPH, on avait aussi des services d'horoscope, on avait les programmes de fréquences gays qui étaient affichés, on avait quelques news, on avait des nouvelles, je crois, de l'association des médecins gays aussi qui donnait des messages de prévention contre le sida, et on avait le sommaire du Guépier de la semaine. Donc ça paraissait tous les samedis, et à chaque fois, il y avait le sommaire sur le Minitel. Mais il ne faut pas se leurrer, il y avait un peu de contenu rédactionnel, mais les gens venaient quand même pas trop pour ça.
Alors, dans le domaine vie des célébrités, 1985 a vu de façon beaucoup plus anecdotique, mais néanmoins très médiatique, deux mariages qui ont marqué leur temps.
Alors, deux mariages à deux ou trois jours d'intervalle. Le grand public français n'y a vu que du feu, mais en fait, les deux événements étaient liés. On a d'abord la grande vedette de l'époque du journal de 13h de TF1. Alors, c'était une immense vedette. À l'époque, c'était le grand présentateur du JT, qui était Yves Mourouzi. Et l'éternel célibataire, finalement, se marie. Il a trouvé la femme de sa vie, une certaine Véronique. Et donc, il organise son mariage à Nîmes. Alors, Paris Match va en faire des pages et des pages. Un mariage grandiose avec le tout Paris qui est là, un lâcher de colombes, une grande fête pour tous les Nîmois. Voilà, un truc énorme. Le monde gay parisien connaissait Yves Mourouzi sous un autre aspect, qui fréquentait beaucoup le milieu, qui avait d'ailleurs son propre, je crois que c'était un restaurant qui s'appelait Le Look dans Paris. Donc Yves Mourouzi se marie, donc toute la France extasie, et trois jours avant, on a un autre mariage qui fait aussi, mais là, beaucoup rire, et les gens ne font pas le rapprochement, c'est les deux grands comiques de l'époque, qui étaient Coluche et Thierry Leluron, qui organisent aussi leur mariage, qui se baladent partout dans Paris en calèche, alors Thierry Leluron est en haut de forme. Coluche, lui, a mis une belle robe de mariée. Il explique, je ne sais pas à qui, qu'il a peur qu'on lui voie les couilles au travers de la robe, etc. Donc, personne ne fait le lien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Leluron et Coluche ont monté ça pour clairement se foutre de la gueule de Mourouzi et de son grand mariage. C'était pour lui dire, lui lancer le message, en fait, on n'est pas dupe, arrête ton char. Et voilà, on sait que ce n'est qu'un mariage de façade de la même façon que le nôtre.
Pluriel gay.
De retour avec Thomas Dupuis, auteur des années Guépier.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas, pour la chronique de l'année 1986. Politiquement, c'est l'année de la cohabitation.
Voilà, alors, la France va inaugurer un nouveau système qui est la cohabitation. Donc ça ne s'est jamais fait. Le président de la République qui est en place est d'un parti politique. Et le Parlement, l'Assemblée nationale élue, est adverse. Donc Mitterrand va rester au pouvoir, l'Assemblée nationale passe largement à droite et du coup Mitterrand appelle Jacques Chirac à Matignon pour gouverner la France. En mars, hein, c'est-à-dire que quasiment tout 86 est sous l'empire de la droite, mais il ne s'attaque pas du tout, tel que certains auraient pu le dire, aux droits des LGBT. De toute façon, en 86, la grande affaire, c'est les manifestations étudiantes contre le projet de loi de Vaquet, qui était le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, qui aboutiront à la mort d'un manifestant, Malik Oussekine, et c'est ce qui fera le point principal de la politique en 1986. Quand Chirac arrive en 86, c'est la suite des années Reagan et Thatcher aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On est vraiment dans une philosophie économique capitaliste, libéraliste. D'ailleurs, la politique française suit cette voie-là. On privatise les banques, on privatise beaucoup de sociétés qui avaient été nationalisées avec Balladur, ministère des Finances. Et la France, elle aussi, donne l'impression de se libéraliser, notamment au niveau de la télévision. Avant, on n'avait que des chaînes publiques. En 85, déjà, Mitterrand a fait créer deux chaînes privées qui sont La 5 et TV6. Alors, La 5, c'est Berlusconi qui fonde sa télévision en France. Et alors, du coup, c'est bling bling, paillettes. On est plus dans une télévision à l'italienne. Et donc, petit à petit, la télévision va se libérer, et même le service public. On va voir sur Antenne 2 la directrice des programmes, Pascale Brugnot, qui va inaugurer l'émission Sexy Folies, qui en fait fait témoigner des couples sur leurs expériences sexuelles, ce qui s'était quand même jamais vu. Sur France 3, enfin sur FR3 à l'époque, on a des téléfilms érotiques qui s'appellent Série Rose, qui théoriquement adaptent de la littérature érotique, mais bon, je suis bon genre, etc. Enfin, même le service public s'ouvre. On a qui passe aux heures de grande écoute, on a les pubs pour Eram d'Étienne Châtillièse qui met en scène des travestis ou on ne sait pas trop, des créatures. Voilà. Au cinéma, on a Bertrand Blier qui sort Tenue de soirée. Donc c'était un film qui abordait les thèmes aussi de la bisexualité, on va dire, en tout cas, du travestissement, enfin voilà. Donc on a toute une France qui se libère, alors même que la droite en plus arrive au pouvoir. Alors on verra que ça se tendra beaucoup plus en 87. Pasqua, qui était à l'intérieur à l'époque, va avoir des mesures beaucoup plus autoritaires, on dira, en 87.
L'année 1986, c'est encore et toujours le sida.
Le sida, effectivement, reste en 86 un véritable problème. Les chiffres explosent encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on considère qu'à San Francisco, à peu près la moitié des homos, c'est-à-dire 80 000 personnes, sont considérées comme étant séropositives. Le sida aussi est devenu une des premières causes de mortalité chez les New-Yorkais. Voilà. Et puis on commence à parler des chiffres qui explosent et qui alors là, sont totalement non maîtrisés en Afrique. En début d'année 86, des chercheurs américains parlent d'une nouvelle molécule qui apparemment a des résultats assez prometteurs, c'est-à-dire qui va stopper la progression du virus, qui va mettre le virus en sommeil et qui va permettre d'accroître largement l'espérance de vie des malades, c'est la ZT. Donc l'AZT est annoncé aux États-Unis en début d'année. Les résultats, effectivement, sont concluants et l'AZT va arriver à titre expérimental en France à la fin de l'année. Donc distribué à des patients un peu sélectionnés, plus ou moins tirés au sort, dans les grands établissements parisiens surtout, qui avaient des services spécialisés sur le sida. Il faut voir que dès qu'il y a eu des nouvelles molécules qui sont arrivées, et d'ailleurs Hervé Guibert en parlera dans son roman Le protocole compassionnel au sujet de la DDI, à chaque fois les molécules étaient en nombre très limité, et du coup c'était un peu au petit bonheur la chance qu'on était tiré au sort pour en bénéficier ou pas. Donc l'AZT effectivement va avoir de véritables effets sur la maladie. Par contre, l'AZT s'accompagnait d'effets secondaires majeurs, lipodystrophie, diarrhée, etc. Enfin, c'était des traitements très 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 lourds, avec en plus des prises régulières difficiles. Donc c'était vraiment un traitement difficile, mais qui a représenté le premier espoir. C'était la première fois qu'on avait quelque chose. Voilà, et ça va un peu tout changer. Donc l'AZT arrive en France et le gouvernement de l'époque aussi commence à mettre en place de véritables actions. Désormais, le test de dépistage du sida va être remboursé. Avant, il ne l'était pas, donc il fallait payer. Et aussi, Philippe Séguin, qui à l'époque donc, est nommé ministre des Affaires sociales, ajoute le sida dans la liste des maladies longues et coûteuses, c'est-à-dire celles qui vont donner lieu à indemnisation à 100% par la Sécurité sociale. Voilà. Donc ça, ce sont les premières mesures. On verra que le gros train de mesures, là, plus pour la prévention, arrivera en 1987, l'année suivante, avec Barzac. Alors, au niveau politique, si effectivement le gouvernement commence à prendre les choses en main, alors par contre, il y en a qui vont faire leur fonds de commerce, c'est le FN. Alors, le FN qui a fait son entrée en masse à l'Assemblée nationale lors des législatives, grâce aux élections à la proportionnelle. Et donc le FN va avoir son théoricien, c'est un médecin qui s'appelle Dr François Bachelot, alors rien à voir avec Roselyne. Donc le docteur Bachelot va théoriser la question du sida au sein du FN, va en faire un repoussoir contre toutes les dérives de l'époque. Donc on va le premier parler de sidatorium, avant que Le Pen lui-même reprenne l'expression, on va le voir l'année suivante. Voilà, donc le FN va investir la question de la maladie pour en faire des arguments politiques comme il en a l'habitude. au sujet du sida, on notera aussi en 86 donc la mort de Thierry Leluron. Alors que quelques temps avant sa mort, il y a eu des rumeurs comme quoi il était malade du sida. Il a démenti officiellement. À sa mort, il n'en sera pas question. La famille démentira toujours. Et puis maintenant, même Lynn Renault l'a reconnu récemment. Voilà, maintenant on sait qu'effectivement Thierry Leluron est mort de la maladie.
L'épidémie du sida n'empêche pas néanmoins une communauté gay de continuer à vivre et à prospérer, je dirais, notamment sous l'égide de David Girard. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de David Girard, qui est un peu un des symboles des années 80 en France ?
Alors, David Girard, c'est un personnage issu d'un milieu très populaire. Il était originaire de Saint-Ouen, qui a commencé en tapinant rue Sainte-Anne. Donc à se faire du fric comme ça, puis à monter des salons de massage, mais qui avec l'argent récolté, en fait, va monter un véritable business, un véritable empire, avec des restaurants, des clubs, notamment donc à l'époque c'était l'Haute Tension. Il va avoir un journal gratuit qui était le 5 sur 5, un journal payant qui est GI, des saunas, donc le King, puis le King Night. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de culture, mais qui, voilà, il aimait faire la fête, donc il y allait à fond, et il a très bien géré son business. David Girard est quelqu'un de très décrié dans la communauté, parce qu'on est en pleine année sida, et lui c'est la fête, c'est les établissements pour baiser, etc. Donc c'est un peu à l'encontre de tout ce pourquoi lutter ou lutte aujourd'hui les associations. J'aime bien moi la figure de David Girard, parce que parti de rien, il est arrivé à quelque chose. Et il a essayé de redonner, dans un contexte qui était des plus moroses, le sens de la fête, et il y avait besoin de ça pour évacuer. En plus, David Girard, qui n'était pas du tout un théoricien, il agissait au final pour la communauté homo, là où les associations étaient complètement out. Le QAR, donc Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, la grosse fédération de l'époque, en 86, ça y est, c'est mort. Pas officiellement, mais il n'y a plus rien. Le monde associatif est complètement dépassé, et notamment la Gay Pride. Les Gay Pride ont commencé en 77 officiellement. La première vraie marche qui est considérée comme la première Gay Pride en France, c'est 1981, le 4 avril. Donc il y avait eu beaucoup de monde, et puis petit à petit ça déclinait. Il n'y avait plus personne au Gay Pride, jusqu'à ce qu'en justement en 86, David Girard décide de relancer ça. Alors il faisait défiler ses chars, c'est clair, c'était commercial, c'était disco paillettes, etc. On était à 100 000 lieues des défilés militants, mais il n'empêche que c'est lui qui a permis que la Gay Pride marche voilà, avec ses gros sabots. Tout le monde se foutait de sa gueule à David Girard, et notamment en 86, donc, il sort son livre Citizen Gay, où il raconte ses mémoires. Il sort un disque aussi l'année suivante, et il sort son livre, mais il n'empêche que Bernard Pivot le reçoit apostrophe. Alors apostrophe, c'était la grande émission littéraire mythique toutes les semaines sur Antenne 2, donc ce qui est devenu France 2. Pivot le reçoit pour se ficher ouvertement de lui, mais il n'empêche que l'autre se démonte pas, il raconte les choses simplement, naturellement, il planait un peu. Lui, il était content parce qu'il faisait son business, que ça marchait. Et même s'il n'était pas du tout dans une démarche associative, il militait à sa façon. Il a permis aussi une véritable visibilité des gays. Il a permis aux gays, dans un contexte difficile, de se sentir bien, de faire la fête. Il faut savoir que aux Hautes Tensions, dans ces établissements, les associations comme Aide avaient porte ouverte. C'est-à-dire que David Girard avait laissé les consignes pour que les associations puissent librement rentrer, disposent de bureaux quand elles en avaient besoin, etc. Donc voilà, sans théoriser quoi que ce soit, il faisait des actions à sa manière, et c'est pour ça que je me suis un peu appesanti sur lui, parce que c'est une figure très importante d'abord des années 80, et à laquelle il faut rendre justice, même si c'était pas un grand intellectuel. Donc on lui a reproché de favoriser un peu l'épidémie du sida, parce qu'il avait ses saunas, il avait ses clubs, etc., qui étaient des lieux de consommation sexuelle. Lui-même décédera du sida dans quelques années, on en parlera plus tard. Voilà, c'est pour moi une figure marquante, touchante, qu'il faut juger moins sévèrement que ce qu'a pu le faire la communauté jusqu'à présent.
Alors, en ce qui concerne la presse gay, on peut dire que le Guépier conserve son leadership en 1986, dans un certain marasme finalement.
Alors, le Guépier, effectivement, fête sa septième année, donc l'âge de raison, on va dire. Les chiffres sont bons. On l'a dit précédemment, le Guépi a quand même la chance d'être assis sur le Minitel qui lui permet de faire fonctionner la machine. Le Guépi est un journal reconnu. À côté de ça, les autres entreprises s'effondrent. Samouraï. Donc Samouraï, c'était vraiment le magazine fondé par Jackie Fougeret. Plus dans une optique, Samouraï, pour moi, me fait penser à Têtu aujourd'hui. Donc Samouraï jette l'éponge, Samouraï s'arrête. Jackie Fougeret fera d'autres, va se lancer dans Illico. Masque aussi s'arrête. Alors Masque, ça avait été fondé aussi comme le Guépi en 79. Masque était beaucoup plus... Donc ça a été un trimestriel, puis un mensuel. Ou le contraire, je ne sais plus. C'était beaucoup plus des articles de fond, des études, etc. Masque s'arrête donc en 86. De même que Homophonie. Homophonie, c'était le journal fait par le QR dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Le seul qui demeure, c'est Lesbia Magazine pour les femmes. Donc Lesbia qui avait été fondée, je crois, en 81, qui s'est arrêtée là il y a 2 ans, donc qui a perduré très longtemps. Alors, Lesbia, qui n'est pas du tout sur le même mode que le Guépi, Lesbia n'était pas distribué dans les kiosques. Lesbia était beaucoup plus artisanale et disposait de beaucoup moins de moyens. Voilà, mais on avait le pendant du Guépi qui, il faut bien l'avouer, c'était, le Guépi était quasi exclusivement un journal homosexuel gay. La question des femmes est très peu abordée. C'est surtout les questions des gays qui sont abordées. La question bi, on n'en parle pas, c'est... Voilà, on ne connaît pas. Quant au trans, c'était... La question trans n'était pas du tout, à cette époque-là, dans la sphère des questions communautaires de l'époque. La notion de LGBT, pour l'instant jusqu'à T, après IQ, on verra, mais lesbien, gay, bi et trans, n'est arrivée véritablement que dans les années... fin des années 90, années 2000, où on a associé la question trans à nos problématiques.
Très bien. Donc nous nous retrouverons pour une prochaine chronique. Merci Thomas.
À bientôt.
Est-ce une fille ou un garçon ? Un garçon aux cheveux longs ? Ou une fille en pantalon ? C'est là la question que j'entends toujours. Toujours et partout, que ce soit dans la rue ou dans le métro. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Mais regardez-vous. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Mais la solution, mais la solution,
voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième émission donc de compilation de best-of des chroniques de Thomas Dupuis sur les années Guépi. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.
Pluriel Gay.